Radio Okapi.
Na Pascal Masirika.
À la une de l'actualité ce midi, pollution des rivières Kasaï et Tchikapa, une étude menée par le Centre de recherche en eau du bassin du Congo à l'Université de Kinshasa révèle qu'environ 2 millions de personnes sont exposées au risque de la pollution. Désignation du président de la CENI. Les 48 heures qui ont été accordées aux confessions religieuses par le président de l'Assemblée nationale expirent ce jeudi à minuit. Notre invité, c'est le porte-parole des FARDC en Ituri. Le lieutenant Jules Ngongo parle de la situation qui prévaut dans les localités d'Itendei et de l'ICI en territoire de Djougou qui était momentanément occupé par des miliciens de la CODECO. Madame, messieurs, bonjour. Pollution des rivières Kasaï et Tchikapa. Une étude a été menée par le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo de l'Université de Kinshasa. Selon cette étude, environ 2 millions de personnes sont exposées au risque de la pollution. Les conséquences préliminaires enregistrées comprennent notamment la pollution des eaux, la perturbation de la pêche, l'intoxication et la perte de la faune et de la flore aquatique, les maladies d'origine hydrique ainsi que les manques d'eau à usage domestique et de récréation. Parmi les actions urgentes à mener, le centre propose de se rassurer de l'état immédiat de rejet des polluants dans les rivières à partir de la source en Angola. Alain Irungmouchiche.
Parmi les actions urgentes, cette étude propose d'établir un plan de mesure hydrodynamique et d'échantillonnage d'eau, des sédiments et de la biodiversité aquatique en amont et en aval de la station en vue de déterminer l'ampleur de la charge polluante, évaluer l'impact socio-économique et environnemental de la pollution et proposer des mesures d'atténuation et de réparation, renforcer la capacité opérationnelle de la station de surveillance du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo et dupliquer ce modèle sur d'autres points sensibles, notamment les zones d'exploitation minière et industrielle. Mettre en œuvre une stratégie de communication pour mieux informer les communautés riveraines à des fins de sensibilisation et de sécurité. Selon toujours cette étude, en outre les informations obtenues de la station de surveillance du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo de l'Université de Kinshasa, installée sur la rivière Kasaï au niveau de Kumtumuke, la pollution y a été observée en date du 12 août 2021, avec possibilité d'atteindre en très peu de temps le fleuve Congo à Kwamout, situé à 140 km de cette station. Kinshasa n'étant situé qu'à 190 km de Kwamout, la diffusion de cette pollution est à craindre.
Merci Alain Irungmouchige pour ces précisions. Dans la province du Lualaba, le territoire de Sandoa est en proie à une crise alimentaire. Les champs de manioc sont attaqués par une mosaïque. Du coup, les habitants de la zone sont obligés d'effectuer plusieurs kilomètres pour chercher la nourriture dans d'autres territoires. Ce cri de détresse est lancé par le député provincial élu de Sandoa. Donati Mboj sollicite l'intervention du gouvernement central pour assister les habitants en détresse. Il a été joint par Jean Gandou.
Je lance une sonnette d'alarme parce que dans ma circonscription électorale de Sandoa, toutes les 8 chefferies du territoire sont attaquées par une maladie, il semble que c'est la mosaïque, qui fait pourrir les maniocs dans les champs. Ça provoque une crise alimentaire sans précédent. Le manioc est la principale nourriture des habitants au Lualaba. Les habitants de Sandoa sont obligés d'aller dans d'autres territoires, comme Kapanga, comme Dilolo, pour aller chercher à manger alors qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de moyen de transport comme des camions. Ils y vont à pied ou à vélo, et ce qui fait qu'ils se sentent obligés de demander à nous, leurs élus, et au gouvernement de chercher à leur envoyer à manger. Donc que la nourriture quitte la ville pour aller au village, ça c'est une catastrophe. Et cette maladie frappe tous les territoires de la province d'Iloualaba. Nous demandons au gouvernement central d'intervenir parce que jusque-là, le gouvernement provincial ne fait rien.
Tous les efforts pour avoir la réaction du ministre provincial de l'Agriculture n'ont pas abouti. Politique à présent. Désignation à Kinshasa du président de la CENI par les confessions religieuses. Les 48 heures leur accordées par le président de l'Assemblée nationale expirent ce jeudi à minuit selon le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'église de Christ au Congo SCC. Pour rappel, le président de l'Assemblée nationale a rencontré lundi dernier, tour à tour, Monseigneur Marcel Outembi, président de la plateforme des confessions religieuses et la délégation des 6 autres confessions religieuses conduites par le prophète Israël Dodo Kamba. Selon Monseigneur Marcel Outembi, sans trop entrer dans les détails, l'échange avec le président de l'Assemblée nationale avait été très cordial, convivial et patriotique. Pour sa part, le prophète Israël Dodo Kamba, qui a conduit la délégation, a indiqué que les serviteurs de Dieu doivent travailler dans l'union sans négliger la diversité des points de vue. Le Sénat a autorisé hier mercredi à Kinshasa pour la 6e fois la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu avant l'examen proprement dit et le vote du projet de loi envoyé par le gouvernement. La ministre d'État de la Justice, Rose Mutombo, a répondu aux préoccupations formulées par les sénateurs sur son secteur. Le président du Sénat, Modeste Batilukwebo, a mis à profit cette rencontre pour exhorter le gouvernement congolais à prendre en compte les recommandations des sénateurs en vue d'obtenir les résultats attendus par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et en Ituri, 3 Chinois ont été enlevés par des miliciens de la Codeco la semaine dernière lors des combats entre les FARDC dans les centres commerciaux de l'ICI et d'Itendei dans les territoires de Djougou. Des sources sécuritaires dans la zone qui ont requis l'anonymat affirment avoir vu les organes amputés de ces Chinois non loin d'un site minier dénommé Amérique dans le groupement des Kilongozi. La société civile locale de son côté parle de 3 autres corps dont celui d'un enfant de 14 ans retrouvé après le contrôle de cette zone par les FARDC. À Bounia, Ezekiel Mouzalia.
Selon les témoins, les populations des Licei et d'Itendei dans les territoires de Djougou ont vécu une véritable horreur ces derniers jours avant que l'armée n'intervienne pour mettre fin à leur calvaire. C'est à cause des exactions subies par un groupe des miliciens de la Codeco. Après avoir mis les feux sur une vingtaine d'habitations, y compris des structures médicales, ces inciviques ont exécuté une femme d'une quarantaine d'années, rapporte le président d'une communauté locale. Des sources proches de la société civile locale indiquent qu'à l'issue des offensives lancées depuis hier par l'armée, 3 corps dont celui d'un enfant de 14 ans ainsi que des organes humains vraisemblablement appartenant à ceux des expatriés chinois enlevés la semaine dernière ont été retrouvés dans la zone. D'autres sources locales restent néanmoins évasives sur les sorts de ces ressortissants chinois. Dans une communication mercredi à la presse à Bounia, le porte-parole de l'armée en Ituri ne confirme pas encore la mort de ces sujets chinois qui, selon lui, restent introuvables. Toutefois, le lieutenant Jules Ngongo avance un bilan de 13 personnes tuées, dont 10 miliciens et 3 militaires des FARDC. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, un campement des rebelles ougandais de la DEF situé au confluent des rivières Semouliki et Talia dans les territoires de Beni a été récupéré hier mercredi après-midi par les FARDC. C'était après une offensive avec l'appui aérien des casques bleus de la MONUSCO. C'est ce qu'annonce jeudi le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. À Beni, une correspondance d'André Kitenge.
Selon le porte-parole des opérations Sokola et Grand Nord, ce bastion stratégique permettait aux rebelles ADF de procéder à des incursions et embuscades sur l'axe routier Beni-Kassindi, un axe d'intérêt économique pour la région, débouchant sur l'Ouganda que les ADF cherchaient à couper pour asphyxier économiquement la ville de Beni. Le lieutenant Anthony Mwalushai indique qu'au cours de cette offensive, les FARDC ont bénéficié d'un appui fait considérable de la brigade d'intervention de la MONUSCO FAIB, ce que confirme le chargé de la communication de la FAIB, le major Harry Modi Fokori, qui parle d'un appui déterminant dans la capture de ce campement. L'ennemi a connu d'énormes pertes dans ses rangs, a souligné le lieutenant Anthony Mwalushai, qui fait aussi état d'importants matériels de guerre récupérés. Rappelons que c'est depuis le 8 août dernier que les opérations conjointes FARDC MONUSCO ont commencé dans la forêt de Mwalika, située dans la chefferie de Bachou. Les FARDC avaient déjà annoncé la neutralisation d'au moins 45 rebelles ADF. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Multiplicité des barrières illégales dans les territoires de Yumbi en province du Maïndombe. Le député provincial Chris Bangokana dénonce les tracasseries policières et militaires dont sont victimes ce jour-ci les vendeurs des produits agricoles venant des villages environnants. Il demande par conséquent au gouvernement provincial de supprimer carrément ces barrières afin de faciliter les échanges commerciaux. Pour en parler, retrouvons à Bandundouville Irène Boma.
Selon le député provincial Chris Bangokana, les commerçants en provenance du secteur de Bassengele en général et du groupement Mbelo en particulier qui alimente la cité de Yumbi en produits agricoles sont bités par plusieurs barrières illégales installées et sont victimes de tracasseries de plusieurs services de sécurité commis au niveau de ces barrières. Il appelle le gouvernement provincial du Maïndombe à démanteler toutes ces barrières afin de faciliter les échanges commerciaux dans ces coins.
Arrivés à Yumbi, ils sont devant une situation de tracasserie impossible par les éléments de FARDC, de Force Navale, par la DGM. Dans ces barrières-là, on prend, on rançonne, on extorque. Nous interpellons simplement l'autorité pour qu'on puisse supprimer ces barrières-là.
Joint à ces propos, Crispin Ipondobanda, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Maïndombe, rassure que des dispositions sont déjà prises pour pallier à cette situation.
Le gouverneur des provinces a déjà réuni le comité provincial de sécurité pour les dispositions utiles, les équipes vont descendre sur le terrain pour essayer de parer à cette situation.
Notez que ces tracasseries ont occasionné la rareté et la hausse des prix de plusieurs denrées alimentaires sur les marchés de Yumbi, a déclaré la société civile locale. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi l'annulation de l'examen d'état au centre de Lusambo 1 dans la province du Sankuru. L'inspection générale estime que ces épreuves ont été caractérisées par la fraude et la tricherie. Le directeur provincial de l'EPST, l'enseignement primaire, secondaire et technique, demande aux parents et aux autres personnes non concernées par ces épreuves de ne plus se présenter au centre d'examen où seront délocalisées les prochaines épreuves afin de donner la dernière chance aux candidats. Explication d'Esther Ndalafina.
Cette décision frappe 138 élèves des options techniques qui ont passé leurs épreuves traditionnelles au centre de Lusambo 1 dans la province éducationnelle du Sankuru 2. L'inspecteur général Jacques Odiamusongaï affirme avoir reçu les rapports des délégués du ministère dans la province du Sankuru faisant état d'une mauvaise organisation de ces épreuves qu'il assimile à la fraude et à la tricherie. Une autre décision prise par l'inspection générale consiste à délocaliser les prochaines épreuves qui auront lieu le 26 août au lycée Boupolé de Lusambo. Suite à cette situation, des rencontres se sont tenues mardi et mercredi à Lusambo entre les autorités administratives de l'EPST et les acteurs de la société civile. Le condensé de la rencontre avec Nicolas Yamba, directeur provincial de l'EPST Sankuru 2.
Nous avons pris des précautions de façon à pouvoir sensibiliser les parents et les instruits de ne plus venir au centre. Nous avons sensibilisé toutes les couches, même la société civile. Les autorités de la place ont préconisé des mesures de sécurité.
Signalons que l'inspection générale rassure l'opinion que la correction des examens de ces 138 candidats ne connaîtront pas de retard, étant donné que l'étape de correction se poursuit encore. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Économie à présent, le Kenya et la RDC décident de conjuguer leurs efforts pour promouvoir les PME, les petites et moyennes entreprises. C'est après une rencontre tenue hier mercredi à Kinshasa entre le ministre congolais de l'entrepreneuriat et une délégation kenyane conduite par le ministre du Commerce extérieur, Industrie et Développement des entreprises. À travers cet engagement, la RDC entend se servir de l'expérience kenyane bien avancée dans l'agro-business. Compte rendu avec vous, Billy Valutumba.
Quoi qu'avancer dans la promotion des petites et moyennes entreprises, la délégation kenyane, composée aussi d'un bon nombre de responsables des PME, reconnaît tout de même faire face aussi à certaines difficultés communes en Afrique. C'est en l'occurrence l'accès au crédit et la capacitation même des PME. D'où la tenue en octobre prochain d'un colloque d'échange d'expériences plus approfondi entre les petits entrepreneurs congolais et plus ou moins 200 investisseurs issus des PME du Kenya. Laurence Karanja, ministre kenyan du Commerce extérieur.
Nous voulons que ces anciennes PME PME qui sont devenues des grandes industries viennent ici et partagent leur expérience avec les PME congolaises afin de leur donner de l'espoir pour pouvoir grandir dans leur secteur respectif. Pour qu'une économie puisse croître, il faudra la croissance des PME. Et cette vision est partagée par les deux chefs d'État, le président Félix Tshisekedi et le président Uhuru Kenyatta.
Signalons que côté congolais, le ministre de l'Entrepreneuriat Eustache Mouanzi est engagé avec ses services dans une campagne de sensibilisation des acteurs dans les PME pour une organisation à la base, à l'instar des menuisiers et des jeunes entrepreneurs des différents secteurs du pays. C'est dans cette optique que les villes de Goma, Lubumbashi, Mbujima et Kisangani bénéficieront aussi de ce partage d'expérience avec les 200 PME au mois d'octobre prochain.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, une trentaine de civils et 14 gendarmes ont été tués hier après-midi dans une attaque d'un convoi des habitants venus de la ville de Dori en partance pour Arbinda à une centaine de kilomètres ont été attaqués par des terroristes. Les forces de défense et les volontaires ont réussi à neutraliser 58 assaillants selon une source sécuritaire. Le président Roch Marc Christian Kabore a décrété un deuil national de 3 jours. Poursuite en Afghanistan, de l'évacuation des milliers d'étrangers et d'Afghans 4 jours après la chute de Kaboul. Seulement voilà, ces évacuations sont difficiles à organiser au motif que les pays occidentaux réclament à coup sûr des couloirs humanitaires pour ainsi permettre à ceux qui le souhaitent de rejoindre immédiatement l'aéroport de Kaboul.
L'invité.
Notre invité, c'est le porte-parole des FARDC en Ituri. Le lieutenant Jules Ngongo parle de la situation sécuritaire au centre commercial d'Itendei et de l'ICI en territoire de Djougou qui était momentanément occupé par des miliciens de la CODECO. Il fait également allusion aux attaques des rebelles ougandais de la DEF devenues récurrentes sur l'axe Komanda Luna. Il s'entretient avec Ezekiel Mouzalia.
Monsieur le porte-parole de l'armée en Ituri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sans ignorer la situation actuelle sécuritaire qui prévaut dans le territoire des Djougou, à Itendei, l'ICI, où il y a plusieurs attaques des Kodeko, mais aussi la situation sécuritaire précaire aussi du territoire d'Irumu. Quelle lecture vous faites-vous de la dégradation de la situation sécuritaire aujourd'hui en province?
Non, il n'y a pas dégradation de la situation sécuritaire, c'est juste une action, une réponse de l'ennemi par rapport à nos actions violentes contre ses ennemis de la paix par rapport aux opérations foudroyantes que nous menons sur tous les axes contre l'ennemi de la paix et de l'ennemi de la population itourienne. Et l'ennemi en proie, donc l'ennemi aux abois, cherche à tout prix donner une réponse. Malheureusement, ce sont les velléités contre les velléités contre les positions des forces armées, mais aussi certaines velléités contre notre population. Malheureusement, celle-ci, elle est victime d'une injustice, des tueries innocentes et des tueries qui n'ont pas même l'essence d'y être. Qu'est-ce que ces gens-là veulent? S'ils veulent combattre contre les forces armées, qu'ils soient là. Et nous l'avons montré que partout où ils étaient localisés, partout où ils voulaient régner à maître, les forces armées ont terrifié ces hors-la-loi. Et voilà, lorsque nous avons frappé à Kobu, l'ennemi, en errance, cherche à s'organiser dans des milieux reculés, comme les milieux où les forces armées sont là, et voilà, ils sont venus attaquer. Ce n'était qu'une velléité qui a coûté d'ailleurs 10 éléments de la milice Kodeko avec ses alliés sont neutralisés par les forces armées lors de ces combats qui a 72 heures déjà. Donc, vous comprenez que l'ennemi cherche à se faire valoir, mais devant les forces armées, devant le rouleau compresseur, je vous l'ai dit, retenez, partout où l'ennemi voulait faire surface, aujourd'hui, c'est dans le passé.
Oui, à l'ICI, à Itendei, il y a certaines sources qui affirment qu'il y a un faible effectif des militaires FRDC. Du coup, la population s'est dit lassée de l'état des sièges qui, selon elle, n'apportait pas de fruits dans cette région. Quelle est votre réponse?
Vous savez, nous ne sommes plus nombreux que les assaillants. Nous sommes plus nombreux que c'est hors la loi. Ensemble avec la population, nous sommes plus nombreux. Lorsque nous avons l'alerte, tout de suite et maintenant, nous agissons. Ça a été le cas. Et donc, l'ennemi sait bien que tel endroit, il n'y a pas des effectifs. Mais la population est là. Et lorsque la population nous alerte, nous agissons promptement et efficacement. Donc, il n'y a pas question des effectifs, mais pour le moment, nous disons à notre population que leurs cris d'alarme, les alertes nous parviennent et nous agissons pour pour leur intérêt.
Changeons de camp vers le sud du territoire d'Irum sur la RN4. Hier, on a appris l'incendie des deux véhicules Actros. On dit que c'était des véhicules qui étaient dans les convois qui ont été organisés depuis peu dans la zone. Est-ce que vous confirmez cette nouvelle?
Évidemment, oui, nous confirmons cette information.
Alors, comment expliquer que les véhicules qui se trouvent dans les convois des militaires soient incendiés par des rebelles des ADF?
Laissons-moi le dire ceci. Ça, c'est l'action de l'ennemi. Parce que nous avons mis les convois avec nos partenaires de la MONUSCO pour... C'est une solution d'abord qui était palliative dans le but de faciliter d'abord le passage de toute la population. Mais entre-temps, en profondeur, nous sommes dans les opérations de neutralisation contre les ADF. C'est ça le terrorisme. C'est leur mode opératoire. C'est ça la guerre sale que nous sommes en train de combattre. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, tout est mis en œuvre pour que nous puissions étouffer la menace de l'ennemi dans l'œuf avant son éclosion.
Alors, quelle garantie sécuritaire donnez-vous à cette population meurtrie par l'activisme des groupes armés? Certains sont même en déplacement à Mongoualou. Il y a d'autres qui vivent la peur au ventre. Quelle garantie sécuritaire donnez-vous à cette population qui aspire aux fruits de cet état de siège?
L'état de siège est là pour imposer l'autorité de l'État. Là où notre population a été menacée, vous êtes ici à Ituri, les forces armées sont le premier à y être pour imposer cette paix. De la même manière, partout où cette population se retrouve. Ici, j'appelle la population de l'Ituri à être aussi l'acteur de la paix, de sa propre paix. Et la paix est à ses prix.
Lieutenant Jules Ngongo, merci.
C'est moi.
C'était l'invité de Radio Okapi, le porte-parole de FARDC, le lieutenant Jules Ngongo, interviewé pour nous par Ezekiel Mouzalia. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir écouté. Infiniment merci à Élise Chikota Mwamboui qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Irung Mouchij. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net et sur les différentes plateformes numériques de Radio Okapi.